Le journal de Catherine Pétillon. Bonjour Catherine.
Bonjour Marguerite, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent dans quelques heures en Alaska pour parler de l'avenir de l'Ukraine, des discussions pour aboutir à un éventuel cessez-le-feu auquel le président ukrainien et les représentants européens n'ont pas été conviés. Nous irons à Anchorage en Alaska dès le début de ce journal. À Genève, les négociations pour un traité contre la pollution plastique ont échoué. Malgré tout, le travail mené a permis quelques avancées. 4 ans après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, la situation des droits des femmes ne cesse de se dégrader. Et en France, les réactions politiques sont nombreuses pour condamner la destruction de l'arbre planté en hommage à Ilan Halimi, ce jeune Français de confession juive, mort après avoir été torturé en 2006. Le sort de l'Ukraine sera discuté entre Donald Trump et Vladimir Poutine aujourd'hui en Alaska. Le président américain accueillera son homologue russe à sa descente d'avion vers 21h, heure française. Les deux hommes se retrouvent pour la première fois depuis 2018 pour échanger sur un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, mais sans Volodymyr Zelensky et sans représentation européenne. Il y a Sandrine et toi, Andek, vous êtes à Anchorage en Alaska et les noms des personnalités qui accompagneront les deux dirigeants ont été dévoilés.
Une quinzaine de personnes dans la délégation américaine composée de hauts responsables, dont le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, l'envoyé spécial Steve Witkoff de Donald Trump, qu'on a vu plusieurs fois aux côtés de Vladimir Poutine et dont les échanges, il y a quelques jours, ont accéléré le calendrier diplomatique qui conduit au sommet qui se tiendra aujourd'hui en Alaska. Côté russe, des hommes d'expérience, des figures du premier cercle de Vladimir Poutine, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russes, dont le t-shirt avec la mention URSS a été commenté, rappel de cette Russie conquérante, chère à Vladimir Poutine, à laquelle il fait référence depuis l'invasion de l'Ukraine, rappel aussi de cette période où l'Ukraine n'était pas un pays indépendant. Sont également présents le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Ryshakov, ainsi que le ministre de la Défense. Cette rencontre présente de gros enjeux à poster sur son réseau social Donald Trump avant de décoller. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lui, semble plus réservé quant à l'issue de la rencontre de ce soir. Nous ne faisons aucune prédiction, a-t-il déclaré.
Sandrine Etoa-Andeg avec Eric Audra, envoyé spécial de Radio France en Alaska. Il est temps de mettre fin à la guerre et toutes les mesures nécessaires doivent être prises par la Russie. Nous comptons sur l'Amérique, a de son côté déclaré sur sa chaîne Telegram Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien tente toujours de contrer l'avancée de l'armée russe sur le terrain et a annoncé le déploiement de renforts dans l'est du pays. Chez les habitants, la rencontre de ce soir suscite beaucoup de méfiance. Après 3 ans et demi de guerre, les Ukrainiens craignent que le sort de leur pays se décide sans eux, entre deux hommes, l'ennemi juré, Poutine, et celui qui apparaît depuis quelques semaines comme un faux ami. La confiance du peuple ukrainien envers Donald Trump s'est clairement effritée. Écoutez à Kiev le reportage de Boris Loumagne et Yachar Fazilov.
Dans les rues de Kiev, la réunion de ce soir est sur toutes les lèvres.
Pour beaucoup d'Ukrainiens, c'est un espoir. C'est la preuve qu'on ne nous a pas oubliés, que les choses bougent. Mais dans le fond, personne ne croit en l'instauration d'un cessez-le-feu dès demain.
Non, pas grand monde n'y croit parce que pour Maria, comme pour beaucoup d'Ukrainiens, le président américain n'est pas à la hauteur des enjeux.
Je suis assez sceptique vis-à-vis de la personnalité de Donald Trump. Cet homme vient d'une autre planète. Il ne comprend rien à la communication et à la stratégie politique des Russes. Il s'attend à trouver quelqu'un de rationnel en face de lui, mais ce n'est pas le cas. Trump ne comprend pas tout cela parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Franchement, ce n'est pas une personne très cultivée.
Trump décrié ici en Ukraine pour ses récentes déclarations mensongères, notamment le président américain a affirmé que Kiev avait provoqué cette guerre. Sa crédibilité est donc largement entamée parmi les citoyens ukrainiens comme Vitali.
J'ai toujours pensé que Trump était plus un showman qu'un homme politique. Trump, c'est un populiste, c'est le même salaud que Poutine, mais aux États-Unis. C'est mon opinion en tout cas.
Une opinion largement partagée par les Ukrainiens que nous avons rencontrés. Selon eux, seule une grande réunion avec les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et l'Europe pourrait déboucher sur un accord de paix.
Et un peu plus tôt dans la journée, dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram, Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant russe Alexei Navalny, a appelé le président Vladimir Poutine à libérer les opposants à la guerre en Ukraine emprisonnés en Russie. Kiev affirme que des milliers de civils ukrainiens sont détenus en Russie. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo le montrant en train d'intimider dans sa cellule le leader palestinien Marwan Barghouti. L'autorité palestinienne a immédiatement dénoncé une provocation sans précédent envers celui que ses partisans surnomment le Mandela palestinien, condamné à perpétuité en 2002. Les explications d'Alice Moreno.
Un ministre menace verbalement un détenu dans sa cellule. La scène semble inenvisageable. Elle est pourtant totalement assumée par le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir. Il a même posté sur les réseaux sociaux une vidéo de cette scène. En hébreu, il menace le détenu Marwan Barghouti, ancien leader du Fatah et figure de résistance majeure pour le peuple palestinien. « Vous ne gagnerez pas », lance le ministre. « Quiconque s'en prend à la sécurité d'Israël sera éliminé ». Face à lui, Marwan Barghouti, qui apparaît très amaigri après 23 ans de détention, n'a pas d'autre choix que celui d'opiner de la tête. Le fils du détenu palestinien, Arab Barghouti, dénonce une violation des droits humains.
Ben-Gvir voulait montrer qu'il est supérieur à la population palestinienne et adresser ce message de supériorité à tous les Palestiniens. Mais je pense que c'est une tentative désespérée et que ça ne fera qu'accroître le soutien du peuple palestinien envers mon père. Je peux vous dire que nous avons confiance en mon père, rien ne le brisera.
En agissant ainsi, Itamar Ben-Gvir s'assure toujours du soutien de la frange la plus à droite de la population israélienne et maintient une pression sur le gouvernement pour mener toujours davantage de politiques radicales.
Cette négociation, elle a échoué, celle pour un traité international contre la pollution plastique. Les 10 jours de discussions intenses entre les 185 pays réunis à Genève n'ont pas abouti à un texte. Un constat d'échec pour la diplomatie comme pour l'environnement. Mais si cette fois les pays pétroliers ont bloqué les discussions, le nombre de nations prêtes à faire des efforts grandit. Alors malgré la déception, Marie-France Dignac, spécialiste de la pollution plastique à l'INRAE et membre d'une coalition de scientifiques pour le traité plastique, voit des raisons d'espérer, comme elle l'a expliqué à Célia Kiré.
On est déçus parce qu'on n'arrive pas à la fin de, cette semaine de négociation à un texte sur lequel les pays puissent s'accorder qui aurait avancé depuis Busan. En revanche, au niveau des coalitions, des pays qui veulent un traité ambitieux, là on voit qu'on a une avancée, qu'il y a de plus en plus de pays qui tiennent compte des données scientifiques, qui tiennent compte du fait que les plastiques sont un problème pour la santé humaine et la santé de l'environnement tout au long de leur cycle de vie. On l'a entendu là en plénière de clôture, même par la Chine, qui tient compte de l'ensemble du cycle de vie depuis la production. Donc ça, c'est des avancées qui sont très importantes et qui montrent que les pays sont prêts à travailler ensemble de manière constructive. Et c'est beaucoup mieux que si les pays avaient accepté un texte vide. S'il n'y a pas la réduction de la production, la réglementation des substances chimiques et que c'est un traité uniquement sur la gestion des déchets, ça va être complètement contre-productif puisque ça ne va pas permettre de mettre fin à la pollution plastique et ça va même contribuer à l'augmenter puisqu'on sait que le traitement des déchets est lui-même source de pollution.
Au Pakistan, de soudaines pluies de mousson ont tué près de 200 personnes en 24 heures. Le pays, le cinquième le plus peuplé au monde, est l'un des plus vulnérables aux effets du changement climatique et les pluies devraient encore s'intensifier ces 2 prochaines semaines. Pendant ce temps, l'Espagne, elle, fait face à des incendies de grande intensité qui inquiètent les autorités. L'agence météorologique a émis un avis de risque très élevé à extrême pour une grande partie du pays. Toute l'Espagne est aujourd'hui en alerte canicule. Lâchés de fleurs par hélicoptère, des drapeaux de l'Émirat islamique d'Afghanistan brandis en ville. À Kaboul, les talibans ont célébré le 4e anniversaire de la prise de la capitale. Depuis leur retour au pouvoir en Afghanistan, les droits des femmes ne cessent de se dégrader, au point que l'année dernière, Human Rights Watch déclarait que les talibans ont créé la pire crise des droits des femmes au monde et leur situation s'empire encore cette année. Les explications de Justine Leblond.
Et la liste de privations s'allonge de jour en jour pour les femmes afghanes.
Récemment, par exemple, un membre des talibans a déclaré que les femmes n'avaient besoin que d'un seul œil pour voir. C'est leur façon d'imposer de manière très stricte le port du hijab.
Zubaïda Abkar est la responsable du programme Afghanistan au sein de Femena. Son association a recensé 130 décrets émis par les talibans depuis leur arrivée au pouvoir contre les droits des femmes.
Elles ne peuvent pas travailler, pas étudier. Aujourd'hui, c'est même interdit de voir une femme à sa fenêtre. d'autres. Elles sont littéralement retirées de l'espace public et emprisonnées dans leurs maisons.
Effacées des écoles, des parcs, des écrans, mais ces femmes n'ont pas disparu. Elles mènent un combat de l'ombre, décrit Ferejta Abbasi, chercheuse sur l'Afghanistan pour Human Rights Watch.
Dès le retour des talibans en 2021, les femmes sont descendues dans la rue et les talibans ont immédiatement répondu à ces manifestations en arrêtant ces femmes arbitrairement, en les torturant. Mais elles continuent d'envoyer un message au monde pour dire « nous n'abandonnons pas ». Pour moi, s'il y a encore une résistance contre les talibans aujourd'hui, c'est grâce aux femmes afghanes.
Selon les derniers chiffres de l'ONU, près de 80% des jeunes femmes afghanes sont sans emploi, sans formation et sans école. Un retard contre lequel certaines femmes essayent de lutter en mettant en place des écoles clandestines ou des clubs de lecture.
En France, une enquête a été ouverte après l'abattage dans la nuit de mercredi à jeudi d'un arbre planté en hommage à Ilan Halimi dans la commune d'Épinay-sur-Seine en région parisienne. Ce jeune Français de confession juive est mort en 2006 après avoir été séquestré, torturé par un groupe qui se faisait appeler le Gang des Barbares. Aujourd'hui, Marion Ferrer, les réactions politiques sont nombreuses.
À commencer par celle d'Emmanuel Macron. Sur X, le chef de l'État a assuré que la République serait toujours intransigeante face à l'antisémitisme, fustigeant ceux qui ont cherché à tuer Ilan Halimi une deuxième fois. Un enfant de France mort parce que juif, a rappelé le président, martelant que la nation ne l'oubliera pas. Une haine antisémite aussi dénoncée par le Premier ministre François Bayrou et son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui parle de dégoût et de colère. À gauche, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, regrette un acte odieux et révoltant, tout comme le socialiste Olivier Faure. La mémoire d'Ilan Halimi, qui doit être respectée pour Éric Coquerel, le député insoumis élu de la circonscription d'Épinay-sur-Seine, souhaite aussi qu'elle soit racontée comme témoignage des conséquences tragiques de la haine de l'autre. À droite, Éric Ciotti y voit un abominable symbole de l'explosion antisémite, des actes décomplexés sous couvert de soutien à la cause palestinienne, déplore Yonatan Arfi, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.
Effectivement, il y a un antisémitisme qui s'assume. Non seulement on s'en prend aux Français juifs, alors toujours sous des prétextes fallacieux et essentialisants, la question du conflit qui se déroule à 3000 km, ou des préjugés antisémites les plus classiques, hein, comme c'était le cas pour Ilan Halimi il y a 20 ans, mais c'est assumé, revendiqué, c'est même présenté comme quelque chose de vertueux. C'est peut-être l'un des éléments les plus tragiques parce que ça rend beaucoup plus difficile à la fois la dénonciation du phénomène, mais aussi le fait de pouvoir le désamorcer. Alors, évidemment, c'est une haine qui est d'autant plus violente.
Les autorités locales se sont engagées à replanter un arbre commémoratif dans les plus brefs délais.
De nombreuses pharmacies seront fermées demain, samedi, un mouvement de grève pour protester contre la décision du gouvernement de plafonner progressivement les remises que les laboratoires accordent aux pharmacies sur les médicaments génériques. Ces remises constituent une partie de la rémunération des pharmaciens et représentent un tiers de leur marge. Près de 90% des pharmacies devraient suivre le mouvement, avance l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. C'est un lieu culturel populaire unique en son genre à Paris, mais en difficulté depuis le début de l'année. La Gaîté Lyrique garde toujours porte close, malgré une réouverture annoncée fin mai. Elle avait été contrainte de fermer après l'occupation entre décembre dernier et mars 2025 par de jeunes migrants sans solution d'hébergement. Il manque à l'établissement culturel parisien 1 million d'euros pour rééquilibrer le budget et donc relancer ses activités artistiques. La direction estime que la ville de Paris, propriétaire des murs, doit contribuer à la restructuration de l'établissement. Les explications de Benoît Grossin.
Avec 3 millions d'euros de pertes d'exploitation sans financement complémentaire, le lieu reste totalement vide, sans moyens pour assurer une programmation et l'ouvrir au quotidien. La ville de Paris, dirigée par la socialiste Anne Hidalgo, a certes versé par anticipation le solde de la subvention, 1,3 million sur les 3,1 millions d'euros pour 2025, mais elle ne respecte pas toutes ses promesses, selon la directrice générale de la Gaîté Lyrique, Juliette Donadieu, qui pointe une volte-face.
Oui, puisque ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi faire des réunions depuis le mois de décembre ensemble pour évaluer en fait les pertes d'exploitation, pour à la fin expliquer qu'il n'y aura pas d'aide complémentaire. C'est ce revirement-là qui nous étonne. L'entreprise qui porte la Gaîté Lyrique avec ses actionnaires, ce qu'elle dit, c'est que la ville de Paris, en tant que propriétaire, doit participer aux côtés d'autres financeurs qu'on essaye de rassembler.
Juliette Donadieu, en partie rassurée aujourd'hui par des promesses d'aide d'opérateurs français et étrangers, est déterminée à obtenir gain de cause. cause, à défendre la gaieté lyrique et ses salariés.
Un lieu ouvert, on peut venir assister à des programmations gratuites, des conférences, des ateliers, c'est des distributions solidaires avec des associations pour des publics vulnérables. Tout ça, on n'est plus en capacité de le faire. Une cinquantaine d'emplois sont menacés. Si nous ne trouvons pas de solution avec la ville de Paris, nous serons contraints de déposer une requête auprès du tribunal administratif pour une demande d'indemnisation.
La ville de Paris affirme de son côté avoir tenu ses engagements d'accompagner et de faciliter la réouverture de la gaieté lyrique, qu'il n'est question ni d'abandon ni de revirement et que le dialogue se poursuit en annonçant une prochaine réunion de travail sur les mesures exceptionnelles de soutien au mois de septembre.
Les températures à nouveau en hausse. Depuis aujourd'hui, 66 départements resteront en vigilance orange canicule demain samedi.